This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Bonjour et bienvenue sur L'Aléa, le podcast qui t'aide à devenir acteur de ta vie. Je suis Laura Pouliken et à travers mon compte Instagram, Low From Paris, ce podcast et toutes mes prises de parole, je te transmets mes cheminements autour du bien-être, de la parentalité, de l'entrepreneuriat, du développement personnel et professionnel. Ici, tu trouveras chaque semaine les parcours, les témoignages ou les conseils d'entrepreneurs, de sportifs, d'artistes, de thérapeutes, de coachs qui t'éveilleront, t'inspireront sur ta propre trajectoire, te permettront de vivre en harmonie avec toi-même et le monde qui nous entoure, t'accompagneront dans la construction de la vie de tes rêves, malgré des aléas que l'on rencontre tous et toutes. Les valeurs qui m'animent, l'amour, l'audace, le bien-être, la contribution. Si tu ne veux pas manquer les nouveaux épisodes, je t'invite à t'abonner au podcast via la plateforme avec laquelle tu m'écoutes. Et si cet épisode te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts, à le partager autour de toi à une sœur, un ami, un membre de ta famille qui aurait besoin d'inspiration pour aller au bout de ses projets. Hôte de l'un des podcasts les plus écoutés en France, Métamorphose, fondatrice du magazine Féminin Bio, directrice de collection aux éditions Erol, auteur d'une dizaine de livres et coffrets, je rêvais de recevoir la grande Anne Guéquière à mon micro. La sortie de son dernier livre, « Va, vie et deviens conscient de toi-même », en était la parfaite occasion. Ensemble, on découvre les grands aléas qui ont façonné son existence, sa manière de faire des choix quand on veut tout, sa façon de se sentir légitime quand on ne se sent pas à la hauteur, ses outils, rituels, pratiques pour aller vers soi, vaincre son anxiété, être en paix avec l'histoire de ses ancêtres ou encore savoir pourquoi on est fait. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Anne.
Bonjour Laura.
Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Anne, vous êtes la créatrice du podcast Métamorphose, que j'écoute depuis presque sa création, je dirais. Directrice de collection aux éditions Erol, fondatrice du magazine Féminin Bio. Vous êtes également l'auteur d'une dizaine de livres et coffrets, dont l'Oracle de la Métamorphose, que j'ai et que j'ai beaucoup offert autour de moi, que j'affectionne beaucoup. Est-ce que vous pouvez vous présenter avec vos mots, s'il vous plaît ?
Oula, je m'attendais pas à cette question dès le matin. C'est bien ça, ça réveille les neurones, comme dirait David Fuenquinos l'autre jour. C'est vrai que se présenter, c'est toujours, je trouve, un exercice délicat parce que qui sommes-nous finalement ? Qui sommes-nous pour dire qui nous sommes ? Nous sommes tellement multiples. Est-ce que nous sommes ce que nous faisons professionnellement ? Est-ce que nous sommes ce que nous sommes profondément à l'intérieur ? Et savons-nous qui nous sommes finalement à l'intérieur de nous ? C'est toute la question en fait aussi des podcasts et des émissions Métamorphose. C'est cette quête de sens pour aller un peu plus conscient de soi-même au monde. Donc, pour me présenter, bah, je crois que vous l'avez très bien fait, Laura, en tout cas dans ce que je projette au monde aujourd'hui. Vous l'avez dit, je suis fondatrice de ce média. Peut-être pour aller sur le volet un peu plus personnel, j'ai déménagé en Suisse il y a presque 8 ans. J'adore ce pays qui n'est pas le mien, qui est un pays pour moi d'adoption, avec beaucoup de nature, beaucoup de beauté. Et je crois que ça me définit en partie. Je suis quelqu'un qui suis folle de nature, de sport outdoor, qui aime s'émerveiller en fait devant la beauté du monde. Et je crois que c'est aussi un endroit merveilleux pour élever des enfants. Donc voilà peut-être en quelques mots à la fois qui je ne suis pas et qui je suis.
C'est une très belle présentation justement, l'émerveillement, on en reparlera un peu plus loin dans l'épisode. Avant de rentrer dans le vif du sujet, à savoir justement devenir soi, Pouvez-vous m'expliquer les moments forts de votre parcours, de votre histoire, qui vous rendent singulière et qui peuvent nous aider à vous connaître un petit peu mieux ?
J'ai eu une enfance assez heureuse sur l'île de Noirmoutier, sur la côte atlantique, une île balayée par les tempêtes et par les vents, mais aussi pleine de soleil, de dunes et de sable. Et c'est vrai que les îles ont ce caractère très particulier. Je ne suis pas native de là-bas, ma famille n'est pas native de cette île. Mais les îles ont cette particularité à la fois de vous projeter vers un ailleurs, vers une forme de rêverie, de tout ce qui est possible, avec en face forcément très très loin, mais en face quand même l'Amérique. Et puis en même temps, cette particularité de vous enfermer. Parce que forcément, quand vous êtes sur une île, vous êtes aussi sur un territoire qui est défini. Alors, il y a un pont, etc. Et puis, on vit au 20e et puis au 21e siècle. Mais quand même, donc ce double sentiment, en tout cas dans mon enfance, de cette nostalgie d'un ailleurs, de tous les possibles, et en même temps de me sentir un peu contrainte par ce terrain de jeu qui est une île finalement relativement petite. Et ça, ça dit beaucoup de moi, ça dit de tous les voyages que j'ai pu faire aussi à travers le monde qui m'ont beaucoup inspirée. Notamment, donc moi je fais un parcours assez classique d'école de commerce, je deviens juriste, je fais du droit des affaires européens. Et puis je rentre dans un grand groupe, à l'époque je lis un livre qui me tombe dessus qui s'appelle « Les autoroutes de l'information » d'une grande journaliste française qui s'appelle Dominique Nora. Et qui me dit qu'une révolution est à venir avec tout ce qui est en fait digital, les nouvelles technologies. On est à la fin des années 90, en 96, 95, 96. Et là, je me dis que j'ai envie de vivre cette révolution Internet et de travailler dans un groupe média qui va accompagner cette révolution. Je rentre dans le groupe Vivendi, où je vais vivre des tas d'aventures extraordinairement enrichissantes dans des startups au sein de grands groupes. Puis après, je fonde ma propre startup. Et au fond de moi, j'ai toujours cette petite fille qui, depuis l'enfance, s'interroge beaucoup sur les mondes invisibles, sur la philosophie, sur ce qui nous anime, sur la connexion au vivant. Et j'ai quand même, malgré tout, même si je vis cette vie en apparence un peu de businesswoman, très excitée dans les nouvelles techno, je me pose cette question fondamentale du sens de la vie. Est-ce que j'ai une vocation? Quels sont mes talents? Tout ça, ça m'interroge en fait beaucoup. J'ai une amie à ce moment-là qui rentre dans les ordres, qui devient bonne sœur. Son parcours, évidemment, va aussi beaucoup m'interroger. Et je fonde ma start-up qui part à la casse, que je revends à la casse au moment de l'éclatement de la bulle Internet. Et là, je vais voyager pendant 3 ans avec mon mari. On s'installe à Barcelone. Et depuis là, on va beaucoup voyager. Et j'ai un appel très fort de la terre, du vivant, en disant cette terre mère qui nous porte. Tous, on est quand même embarqués comme sur une espèce de vaisseau tous ensemble. Me rappelle à elle en disant « bah tiens, mets-toi au service du vivant ». Et à ce moment-là, quand je rentre en Europe, je vais écrire un premier livre sur le bien-être au naturel, un deuxième livre sur les cosmétiques bio, un troisième. Et puis, je vais fonder ce média engagé dont vous avez parlé, Féminin Bio, pour me mettre de cette manière-là au service du vivant dans son ensemble, de nos écosystèmes, que ce soit nos écosystèmes en apparence à l'extérieur, la terre, le vivant, le bios en grec, ça veut dire le vivant. Mais que ce soit aussi nos écosystèmes intérieurs, nos terreaux intérieurs. Tout ça, ça m'intéresse beaucoup. Voilà, en résumé, c'est vrai que plus on avance en âge, plus forcément nos parcours sont longs. Donc, je l'explique peut-être de manière un peu longue, mais ça permettra de peut-être mieux comprendre qui je suis.
Vous l'expliquez très bien. Moi, Anne, j'ai la conviction que l'on s'aligne avec qui l'on est à la suite d'aléas, qu'ils soient positifs, qu'ils soient négatifs. C'est le nom de mon podcast. Est-ce que peut-être avec nous ce matin, vous pouvez revenir sur un ou plusieurs aléas qui vous ont conduit à être la femme que vous êtes aujourd'hui et finalement à votre métamorphose?
Je pense qu'il y a quand même des grands cycles et des grands tournants. Chez moi, je vous l'ai un peu dit, c'est vrai que ces aléas, ça a été des personnes qui se sont engagées autour de moi, que ce soit des amis dans l'humanitaire, que ce soit cette amie qui est devenue sœur très jeune, à 22 ans, ce sont des aléas qui m'ont beaucoup interrogée. Et puis, le fait de rentrer très jeune, de monter une start-up, de lever des fonds, c'est vrai que ça vous met quand même en danger de quitter des grands groupes, de quitter des postes très sécuritaires dans des grosses boîtes très bien payées, etc. Pour se réinventer en fait en permanence, c'est quelque chose qui m'anime énormément. J'aime suivre mes intuitions qui sont parfois heureuses ou malheureuses, puisque ce sont des parcours de vie, comme vous avez dit, avec tous ces aléas qui fait que ce sont nos chemins. et que parfois on prend certaines bifurcations, certaines directions, on ne sait pas si c'est la bonne direction. D'ailleurs, qu'est-ce que la bonne direction, hein, c'est une question que je pose dans mon livre. Qu'est-ce que le sens? La vie a-t-elle un sens? Quel est le sens? Et c'est vrai que ces aléas, en tout cas ces événements qui m'entourent à ce moment-là, entre 20 et 30 ans, sont déterminants. Je ressens aussi très fortement à l'intérieur de moi cet appel à devenir entrepreneuse, à entreprendre, à suivre, comme dirait peut-être Paolo Coelho, ma légende personnelle, sans avoir jamais de choses tracées devant moi. Je ne sais jamais en fait quelle est la prochaine étape. Je me laisse très fortement guidée par mes intuitions, mes envies du moment, les opportunités, pas forcément comme une girouette qui va changer d'avis à tout moment, puisque après l'aventure féminin bio va durer une quinzaine d'années, métamorphose ça fait 6 ans, donc il y a quelque chose de construit, mais qui au départ vient vraiment de quelque chose qui se passe. Peut-être dans mes grands cycles de métamorphose, il y a forcément la rencontre d'un conjoint, d'un compagnon de vie, et puis la venue des enfants. Moi, j'ai eu 3 filles très rapprochées, 3 enfants en 3 ans et demi. Et c'est vrai que les enfants viennent souvent. En tout cas, moi, dans mon parcours, je dis toujours que nos enfants sont des petits maîtres pour nous, pas dans une vision de l'enfant roi qui vous mène par le bout du nez, mais dans une vision de « ils vous enseignent à être aussi qui vous êtes » dans un effet miroir. Donc, ça a été un aléa, en tout cas, si je peux le dire comme ça, un cycle de métamorphose très important aussi pour moi dans ma vie de femme et de mère.
Moi, j'ai 2 enfants en bas âge et c'est vrai que chaque enfant vient révéler une part de nous-mêmes qui nous était peut-être inconnue ou très enfouie. Et je le ressens vraiment tout à fait aussi également depuis que je suis maman. Vous l'avez dit très justement, pour aller vers soi, il faut faire des choix. Vous dites dans une interview que faire des choix, c'est avancer, que c'est pourtant difficile pour vous de faire des choix. Comment on fait des choix, notamment professionnels ?
Je me réfère à la phrase d'une sainte qui s'appelle Thérèse de Lisieux et qui parle du choix. Et elle disait « je veux tout ». Bon, c'était une religieuse, donc elle parlait de son amour de Dieu, etc. Mais moi, je me reconnais dans ce « je veux tout ». C'est pour ça que pour moi, les choix sont parfois difficiles. C'est-à-dire que j'aimerais aller à droite, mais aussi à gauche.
Je suis pareille.
Voilà, et ça a révélé, je pense, chez moi, des formes de troubles de l'attention avec hyperactivité, ce qu'on appelle communément le TDAH. Je pense que j'ai une forme de TDAH qui est pas très grave. Hein. Il y a différents curseurs dans le TDAH. Chez moi, il est plutôt léger. En tout cas, il m'a pas trop posé de problème. Mais c'est vrai que cette notion de choix, on peut la retrouver quand on est dans un restaurant, ces personnes qui veulent à la fois ces 2 entrées, mais aussi ces 2 plats, mais qui prendraient bien le dessert, mais qui veulent pas en prendre trop non plus, et pour qui les choix peuvent être assez compliqués. Donc c'est vrai que, mis à part la carte du restaurant, dans le milieu professionnel, c'est vrai que j'aime aussi maturer assez longuement les décisions que je vais prendre, mais quand je les prends, je suis capable de trancher ensuite très vite et d'aller, de suivre la direction que j'ai décidé de prendre. Après, je fais plus difficilement volte-face. Je suis capable de faire volte-face, mais une fois que j'ai pris une décision, je me dis, allez, on y va et c'est la bonne. Mais c'est sûr que pour ça, il faut être à l'écoute de soi profondément. Parfois, je suis capable de... Par exemple, la décision de faire le podcast Métamorphose, c'est une décision qui s'est prise en une fraction de seconde, où je n'ai absolument pas hésité. Je n'ai pas évité justement de prendre cette décision. Je n'ai pas hésité une seule seconde. C'était un bon lapsus, puisque ça m'est apparu de manière claire. Et je crois qu'il y a ces 2 choses dans la vie. Il y a parfois, on est extrêmement clair sur notre choix et ça nous presque tombe dessus, ça nous précède. C'est-à-dire que c'est comme si le chemin était tracé et nous dit « c'est par là qu'il faut aller ». Et puis dans d'autres circonstances, on est hésitant et c'est pas pour autant que je dirais qu'il y a une décision qui est moins bonne qu'une autre. C'est simplement qu'il est important d'aller discerner au fond de soi, d'aller peut-être dans un désert intérieur, dans un temps de silence intérieur pour savoir plus profondément à quoi je réponds. Est-ce que finalement c'est l'excitation qui répond? Est-ce que c'est l'ego qui répond? Qu'est-ce qui répond à ma place? Quelle est cette voix qui va répondre et que j'ai envie de suivre? Vous voyez, c'est pas tout à fait du même ordre.
Oui, tout à fait, tout à fait. Justement, si on reparle de Métamorphose, premier podcast de France sur le bien-être et la quête de sens, plus de 60 millions d'écoutes des auditeurs engagés et qui vous suivent depuis le début. Vous me parlez justement, j'ai l'impression d'une fulgurance, pardon, pour le créer. Comment ce podcast est devenu premier sur le bien-être et surtout, qu'est-ce que ça traduit dans notre société selon vous ?
Quand j'ai lancé Métamorphose, c'était en janvier 2019, j'ai su en 2-3 semaines qu'il se passait quelque chose, que c'était effectivement qu'un phénomène était en marche. C'est vrai que si je reprends mon ancienne casquette de médias, travaillant dans des grands groupes internet et dans des startups, on se disait toujours, bah, il y a la bonne idée au bon moment. Et c'est sûr que Féminin Bio répondait, je pense, à l'époque, à une soif du vivant et de se mettre en chemin pour mieux se connaître, pour mieux être en harmonie avec nos écosystèmes, était un peu en avance sur son temps. Mais c'est de toutes les rencontres qui ont été nourries par ce média engagé, un média de niche, hein, Féminin Bio à l'époque, que j'ai pu nourrir en fait toutes ces rencontres qui ont fait que Métamorphose, quand Métamorphose est née, ça a été tout de suite une rencontre avec le public. Je pense que les gens ont senti qu'à la fois c'était un cheminement qui datait depuis une quinzaine, vingtaine d'années pour moi, très important et approfondi. J'avais interviewé des personnes comme Laurent Gounel à une époque où il était peu connu, où il démarrait, Christophe André, etc. Ces gens me faisaient confiance et à la fois, comme vous le dites très bien, à ce moment-là, il y a aussi une soif du public. Je pense qu'on est un tournant, une métamorphose de nos écosystèmes, de l'humanité, liée notamment au bouleversement climatique, mais aussi peut-être dans notre écosystème humain, où finalement on s'aperçoit que les modèles qui étaient ceux sur lesquels on a vécu après les 30 glorieuses, etc., sont à bout de souffle. Et donc il y a tout ce terreau de questionnement de l'être humain qui se dit « Pourquoi suis-je là ? Quelle est ma destinée ?» qui est une question que les philosophes et que l'humain s'est toujours posée, mais peut-être là de manière plus prégnante maintenant. Et donc Métamorphose est arrivée à ce moment-là, arrive à cette conjonction de cette soif peut-être aussi du monde et des personnes, tout comme ma propre soif personnelle, de ces grands questionnements existentiels, de cette compréhension de soi-même, d'être plus conscient de qui nous sommes, et arrive à ce moment-là, et ça donne une grande étincelle, une sorte d'épiphanie, de rencontre du public avec tous ces sujets, tous ces experts sur ces sujets. Oui.
Tout à fait, c'est l'un des seuls podcasts de France qui aborde des sujets très spirituel, autant spirituel. Comment vous sélectionnez les sujets que vous abordez ? Et est-ce que vous vous sentez libre de votre sélection éditoriale dans cette société, même si finalement on a soif, et en l'occurrence moi, de toute cette quête de sens, on est quand même dans une société rationnelle, faut le dire, par rapport à d'autres cultures.
Dans Métamorphose, je pense qu'on aborde à peu près 20-30% des sujets qui sont spirituels et les autres sont plutôt de la santé mentale, de la psychologie, de la philosophie, de l'art de vivre sainement. Mais la spiritualité, effectivement, est peut-être un sujet transversal qui touche finalement qu'est-ce que la spiritualité ? Ça pose cette grande question. Est-ce que c'est croire en quelque chose qui nous dépasse ? Est-ce que c'est un phénomène religieux ? Est-ce que c'est simplement être en lien avec son intériorité, avec qui je suis à l'intérieur de moi, quelle est ma pensée ? Ça pose cette grande question. Chacun, en fait, y met ses propres mots. Certains diront, parleront à l'univers. J'ai interviewé Véronica Loubry il n'y a pas longtemps qui disait « Moi, c'est l'univers ». D'autres y mettront le nom d'invisible, d'autres du cosmos, etc. Qu'est-ce que le phénomène spirituel ? Qu'est-ce que le phénomène religieux ? Tout ça, ce sont aussi des grandes questions. Moi, j'essaye de faire en tout cas très attention de laisser chacun libre par rapport à ses croyances. Je ne prétends à entraîner personne dans aucune voie, je le dis très bien aussi dans mes ouvrages. Moi, j'ai mes propres croyances, comme tout à chacun, qui font partie de mon inconscient collectif, familial, de ma façon d'être arrivée au monde et puis ensuite de mon cheminement. Moi, je suis une personne tellement libre que je n'aime absolument pas... entacher la liberté des autres. Donc, Métamorphose milite pour une grande biodiversité de la parole. Et ça, c'est quelque chose de très important pour moi, ce terme, pour être le plus éclectique et le plus large possible. Et chacun viendra, en fait, y piocher, y trouver ce qui lui convient personnellement. Je me méfie des voix qui sont prêtes à penser, toutes prêtes, des voix spirituelles qui prétendent détenir la vérité et dire aux gens c'est ça qu'il faut faire. Je crois que chacun doit être son propre guide, en fonction de ses propres croyances et ensuite aller au monde avec beaucoup de discernement pour comprendre ce qui lui convient. Il y a aussi des personnes qui sont fragiles de par leur histoire de vie, de par leur trauma et qui peuvent se jeter sur toute voie spirituelle qui d'un seul coup leur promettrait la lune. Il faut agir avec beaucoup de discernement sur ces sujets. Donc c'est vrai que la ligne éditoriale de Métamorphose est à la fois très ouverte, beaucoup de choses, beaucoup de voix, très éclectique, mais en même temps vigilante, effectivement, à donner la parole à des personnes qui ont bien la tête sur les épaules et qui ne chercheraient pas à entraîner des gens dans des voies hasardeuses. Et en même temps, on n'est pas Mediapart, on ne fait pas une enquête sur chaque personne qu'on interviewe dans Métamorphose. Et quand bien même on ferait des enquêtes, on n'est pas derrière chaque personne, on n'est pas non plus des personnes qui faisont la morale en disant « ça c'est bien, ça c'est pas bien ». On ne sait pas ce que font les gens le week-end en réalité. Je parle de mes experts interviewés. Donc on peut aussi se tromper sur certains profils évidemment. Et voilà. Mais c'est important, on a quand même cette zone de vigilance très importante chez nous.
Vos croyances et votre cheminement, on le découvre un petit peu plus justement dans ce livre. « Vas-y et deviens conscient de toi-même, 12 chemins de métamorphose » que j'ai justement eu l'opportunité de lire. Et si je vous invite aujourd'hui aussi sur l'Aléa, c'est pour parler de ce livre qui contient deux grandes parties, « Plonger dans sa vie intérieure » et « Déployer nos ailes ». On comprend bien, sans se connaître, il est impossible de s'épanouir véritablement. Quel a été ce processus, votre processus et votre objectif dans cette structure ?
Alors c'est intéressant ce que vous venez de dire parce que vous dites sans se connaître, il est impossible de s'épanouir. Je suis pas sûre de ça aujourd'hui. Ah. Je sais pas si vous le pensez. Je sais pas si vous le pensez vraiment quand vous
le dites. Moi je le pense. Je le pense. Ouais.
Moi je pense aujourd'hui que peut-être que si on se connaît mieux, on a une forme de conscience au monde et de légèreté qui permet de précisément être plus conscient de ce qui m'agit ou par quoi suis-je, de quoi suis-je fait en fait à l'intérieur de moi, pourquoi je suis comme ça. Est-ce que pour autant ça nous rend plus épanouis, plus heureux et qu'on trouve plus le bonheur? Ben, je ne sais pas. Je vois parfois, vous savez, dans certaines contrées, on voit des personnes qui ont une joie rayonnante en fait sur leur visage, qui sont Moi j'ai eu par exemple l'occasion de voyager à Cuba, qui est un pays où ils sont quand même très contraints. Il y a beaucoup de pauvreté et on voit souvent, et Sœur Emmanuelle le disait aussi très bien, que ils sont dans un essentiel qui les rend finalement très éloignés d'une certaine matérialité, même si évidemment ils aimeraient avoir leurs besoins primaires qui soient déjà là, mais en tout cas quand ils ont ce socle déjà quand même de sécurité matérielle, ils ne sont pas dans une pauvreté absolue, dans une misère noire, ils ont quand même un rayonnement parfois que nous avons perdu en Occident. Donc cette question quand même de mieux se connaître pour être peut-être plus heureux, je ne sais pas, je crois que mieux se connaître nous rend en tout cas plus conscients, peut-être plus légers, permet de savoir de quel bois je suis fait. Tiens, mais quand je réagis comme ça, en fait, c'est peut-être mon père ou ma mère qui parle à travers moi, ou c'est peut-être mes grands-parents, finalement, le poids de mon héritage, mon conditionnement, ce qu'on m'a appris. C'est intéressant de remettre tout ça en question. Et puis, parfois, quand on a été soit traumatisé, soit blessé, soit voilà, qu'on a vécu des choses douloureuses peut-être dans notre enfance, et qu'on sent qu'on est en souffrance, qu'on a certains empêchements, là, ça peut être intéressant de mieux se connaître aussi pour essayer d'aller au monde peut-être plus léger, plus joyeux par rapport à ces traumas et ces souffrances pour aller vers une forme de guérison. Mais dans le fond, c'est une grande question. Pourquoi mieux se connaître ? Effectivement, que vous posez à travers cette interrogation.
Ce livre commence par cette citation « L'homme mérite qu'il se soucie de lui-même car il porte dans son âme les germes de son devenir ». Puis quelques pages plus tard, j'ai souhaité vous embarquer avec moi dans la quête existentielle qui mène chaque jour un peu plus vers la connaissance de son soi intime, intrinsèque en mouvement. Qu'est-ce qui, selon vous, définit la quête existentielle et pourquoi est-ce important ?
Ce qui est important, comme je le disais à l'instant, c'est que quand je peux mieux me connaître, discerner qui je suis, quels ont été finalement mes schémas de l'enfance, quand je suis arrivée au monde, dans quel terreau je suis arrivée, quand ma mère était enceinte de moi, et là je parle à celles et ceux qui nous écoutent, que vivait-elle émotionnellement, quelle était l'ambiance familiale autour de vous à ce moment-là, autour de moi. Mon père était-il là, ou le conjoint, l'autre conjoint était-il, l'autre parent était-il présent à ce moment-là. Tout ça, ce sont des questions. Est-ce que je suis arrivée dans un pays qui était le mien, etc., etc. Tout ce contexte, en fait, familial, collectif, que Jung appelle l'inconscient collectif, tout cet imago qui est à l'intérieur de moi, constitue qui je suis. Et c'est vrai que d'avoir cette connaissance et cette conscience permet parfois de se dire, tiens, quand je réagis de manière conditionnée, en pilote automatique, qui parle à l'intérieur de moi ? Quelle voix, quelle est la voix? Est-ce que c'est ce petit enfant blessé qui est toujours en mode réaction, réactionnelle, et qui agit de cette manière-là parce qu'il a besoin de se faire entendre? Ou est-ce que finalement il y a d'autres ressources et d'autres ressorts possibles et qui me feraient prendre une autre voix? J'aurais peut-être pris celle-là. Par exemple, je suis tombée dans une famille où on était fonctionnaire, voilà, il fallait avoir une forme de sécurité matérielle parce que ça pouvait être dangereux d'entreprendre. Eh ben, est-ce que dans ces trahisons inconscientes, je peux trahir ça pour devenir entrepreneur, entrepreneuse, entreprendre ma vie, faire autrement? Je suis née dans une famille d'ingénieurs. Moi, j'ai envie, je parle pas de moi, je prends des exemples.
Oui, bien sûr.
Voilà, j'ai envie de devenir chanteuse ou chanteur. Est-ce que je m'autorise finalement à aller dans cette voie-là ? Donc, cette connaissance, cette quête, en fait, cette quête de connaissance de soi, permet parfois de remettre en question tous ces schémas appris, ces schémas inconscients, bien sûr, pour aller peut-être un peu plus libre. Et sommes-nous libres ? Alors, après, c'est une grande question. Je ne crois pas fondamentalement qu'on a certaines libertés, mais est-ce qu'on est véritablement libre ? Mais en tout cas, d'aller un peu plus léger comme ça au monde, dans nos choix et dans nos décisions, peut-être.
Dans la première partie, vous partagez justement toutes les thérapies, tous les rituels qui nous aident à plonger dans notre vie intérieure pour être en paix avec nos ancêtres, cheminer avec nos blessures, oser vivre nos émotions. Comment recommanderiez-vous à quelqu'un de choisir la pratique thérapeutique qui lui convient le mieux, étant donné justement la diversité des approches disponibles ?
Ça dépend un peu de la typologie de chacun. Moi, je propose dans le livre une quarantaine de thérapies, de voies, d'outils. Ce ne sont pas que des thérapies, évidemment, que j'ai pu explorer d'une manière ou d'une autre, certaines de très très près, d'autres vraiment de loin. Et il y en a bien d'autres que j'ai explorées, que je n'ai pas mis forcément dans cet ouvrage. Bon, moi, j'en ai fait mon métier, donc j'ai exploré aussi souvent des voies à titre professionnel, pas que à titre personnel. Je crois que chacun, c'est pour ça que j'en ai mis beaucoup, pour montrer qu'aujourd'hui, il y a peut-être 300, 400 thérapies, voies différentes. On sait qu'il y a des choses qui fonctionnent très bien et qu'il n'y a pas, encore une fois, de prête à penser ou de prête à guérir. J'en discutais avec le docteur Frédéric Fanget, il n'y a pas longtemps, qui est médecin psychiatre, et qui disait qu'un thérapeute doit avoir tout un arsenal thérapeutique et ne pas plaquer en fait une façon de soigner qui serait bonne pour tout le monde. Ça, je crois que déjà, quelqu'un qui voudrait démarrer et se dire « tiens, j'ai besoin d'aller voir quelqu'un », il faudrait fuir ce type de personne qui dit « moi, j'ai une méthode, je l'ai apprise et il n'y a que celle-là qui fonctionne ». Voilà. Ensuite, savoir comment on est. Mieux se connaître permet de savoir quelle thérapie est la plus adaptée. Si je suis quelqu'un de très mental, ce que les anglo-saxons appellent « brainy », tu sais, les gens qui sont vraiment dans leur tête, qui sont un peu peut-être anesthésiés émotionnellement, qui ont du mal à ressentir dans leur corps, en fait, qui ils sont, peut-être que une thérapie psychocorporelle serait intéressante, parce que sinon, ils vont continuer à mouliner des concepts dans leur tête, ils vont comprendre intellectuellement des choses, mais peut-être que certaines blessures qui sont engrammées plus profondément dans leur corps vont être plus difficiles à atteindre, etc. Ensuite, se renseigner sur le thérapeute, c'est-à-dire savoir qui est déjà allé, est-ce que cette personne présente bien son arsenal thérapeutique. Tout le monde est en droit de demander dans une première séance en disant « que faites-vous ? Quel est le processus ? Comment est-ce que vous accompagnez les gens ? Quels sont vos diplômes ? Quelle expérience avez-vous ?» Ça, c'est très important. Je parlais d'agir avec discernement. C'est vrai que se dire « tiens, je vais pas bien, d'un seul coup, je vais m'inscrire à un stage, juste comme ça, parce qu'on m'en a parlé, j'ai même pas regardé le programme et je sais pas ce dont il s'agit. Vigilance, ça peut aussi, on sait qu'il y a des phénomènes de dissociation au niveau de la psyché. Quelqu'un de fragile qui aurait par exemple une levée de trauma un peu trop rapide, ça peut être vraiment dangereux. C'est-à-dire que, voilà, il faut vraiment, vraiment bien choisir sa voie. Après, il y a des choses qui sont beaucoup plus légères. On peut commencer aussi peut-être par du coaching. Il y a des outils de connaissance de soi qui sont très intéressants. Il y en a dans les entreprises. Il y en a, moi, je parle par exemple de l'énéagramme, je parle aussi du human design, mais il y a aussi le MBTI. Il y a beaucoup de... on a fait un épisode un peu avec Alexandre Dana dans les conversations du Scarabée sur tous les outils aussi de connaissance de soi qui permettent déjà de un peu mieux se connaître. Parce qu'en fonction de ça, on peut aussi choisir une thérapie qui est plus adaptée derrière.
Dans la première partie, pour plonger dans sa vie intérieure, c'est aller à la rencontre de sa naissance. Vous parlez d'un protocole de régression in utero, l'histoire de la crevette rose. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette expérience ?
Là, j'ai exploré une thérapie qui s'appelait l'ICV, ça veut dire intégration du cycle de vie. Ça a été mis en place par une femme, je crois que c'était aux États-Unis, Peggy Sage, il me semble que c'est elle qui a fondé l'ICV. En tout cas, ça a été très intéressant pour moi parce qu'on travaille sur une ligne de vie pour intégrer ce qu'on a vécu et voir que finalement, on peut tirer le fil de sa vie de manière différente. Donc, on part soit de la naissance, soit on repart de la vie in utero. Donc, moi, c'était le cas. Et je me suis aperçue en faisant, en tirant cette ligne de vie où on est dans une forme un peu d'état conscience modifié, mais légère, comme on pourrait l'être un peu en hypnose, léger état de transe. Après, il y a des personnes pour lesquelles c'est plus facile d'être dans cet état que d'autres. Et on va revisiter, en fait, comme ça, sa ligne de vie. Et on va le faire plusieurs fois, dans plusieurs séances différentes. Et on va s'apercevoir qu'on ne tire pas toujours les mêmes fils des grands événements de notre vie. Parfois, on a certains souvenirs qui reviennent. Et en fait, à force de refaire cette espèce de timeline, cette grande ligne de vie, on va tirer des fils entre différents événements. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on va s'apercevoir que, tiens, tel événement que j'ai vécu quand j'étais adolescent, j'en ai reparlé une fois, puis tiens, en y repensant, ça a fait écho à un autre truc que j'avais oublié. Et donc, on va tirer comme ça notre ligne de vie. Donc, en faisant ce protocole, qui est vraiment voilà, quelque chose qui est très... Il y a pas mal de livres dessus, assez développé aussi dans certains pays anglo-saxons. C'est pas quelque chose aujourd'hui de farfelu. J'ai pu, moi, me remettre dans un espèce de vécu de vie in utero où j'ai compris d'où venait peut-être une forme de timidité que j'ai d'être au monde en revivant... peut-être la grossesse de ma mère. En fait, je raconte hein, dans le livre plus en détail, mais quand ma mère est tombée enceinte, mes parents n'étaient pas mariés, ce qui ne se faisait pas à l'époque. Même s'ils avaient prévu de se marier, c'était trop tôt. Donc, maman tombe enceinte de moi, elle est assez jeune, elle a 23 ans. Donc, ils sont fous amoureux, mais ils n'ont pas prévu d'avoir d'enfants à ce moment-là. Donc, j'ai revécu, en tout cas moi, dans cette séance in utero, comme si je m'incarnais au monde, et je prends cette image, cette allégorie de la crevette, comme si j'arrivais genre pleine balle, donc je me vois sur une piste de cirque, c'est comme si j'étais dans un rêve, je vois une crevette qui danse, qui est toute contente, donc c'est tout rose, il y a plein de lumière, et puis d'un seul coup... ça s'éteint, il fait noir et la crevette, elle est toute triste, elle comprend pas ce qui se passe et elle essaye de se cacher et en fait elle peut pas parce que c'est tout lisse, c'est comme une piste de cirque, c'est tout rond, il y a pas de planque, c'est noir et là elle ressent une forme de tristesse et j'ai conscientisé à travers ce protocole que peut-être, hein, je mets toujours des guillemets, c'était au moment où ma mère apprend qu'elle est enceinte et forcément, les gens autour d'elle, ses parents, ses beaux-parents, ses futurs beaux-parents lui disent « c'est pas bien, c'est mal, vous n'êtes pas mariée, etc. » Et voilà, et j'imagine peut-être ses émotions, sa tristesse. Il y a quelque chose qui s'éteint à ce moment-là en elle. Elle apprend qu'elle est enceinte, est-ce qu'elle a envie d'avoir cet enfant, c'est pas le bon moment, voilà. Donc simplement pour illustrer que moi, ça m'a permis dans ce contexte de revécu comme ça in utero, de mieux comprendre aussi ma façon d'être au monde. À la fois, j'ai une incarnation voilà, qui est très rapide, c'est-à-dire qu'on imagine que mon âme, le fœtus a envie de s'incarner, il arrive, elle tombe enceinte. Il y a une joie, donc c'est ce côté très joyeux en moi d'être vivante, très incarnée, et en même temps, toujours une volonté de ne pas trop être dans la lumière, de rester un peu cachée, de ne pas trop montrer, parce que ça peut être dangereux. comme dans le vécu de ce fœtus in utero. Donc, c'est des choses peut-être, ensuite, chacun l'interprète comme il veut avec son thérapeute. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que j'ai vraiment vécu ces émotions in utero? Je dirais qu'on n'en sait rien. Mais ça peut expliquer et permettre de conscientiser certaines manières d'être au monde qui peuvent être intéressantes.
Tout à fait. Moi, j'ai aussi appris que ma mère voulait, par exemple, un garçon et que, du coup, j'avais un yang assez déséquilibré. Et c'est aussi exactement, c'est exactement ce que vous décrivez. C'est comprendre qui on est et pourquoi on est comme ça pour peut-être agir d'une certaine manière. C'est tout à fait
exactement.
Ça. Un autre passage qui m'a interpellée dans le livre, c'est celui dans lequel vous parlez de votre propre croyance de ne pas être à la hauteur, un comble quand on voit votre succès, même si je sais que quand on le vit nous-mêmes, on s'en rend pas forcément compte. Et vous écrivez « L'idée n'est pas d'arrêter ce qu'on a l'habitude de faire ou de ne plus avoir de croyances, mais d'éclairer ces dernières pour les repérer et les observer en action. » Il est question donc, on le comprend, donc de ne pas rejeter nos croyances, mais de vivre avec. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ?
Ça, c'est le syndrome de l'imposteur dont on parle, c'est-à-dire qui est plus courant chez les femmes d'ailleurs que chez les hommes, parce que l'inconscient collectif, encore une fois, et les éducations, ce qui n'était pas forcément le cas, mais c'est culturel, globalement, la société dit qu'une femme a peut-être moins sa place qu'un homme dans le succès, dans la réussite, dans les projets, etc. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, c'était vraiment intéressant de me dire ce sentiment, en fait, parfois d'illégitimité. Je ne suis pas légitime, quelqu'un d'autre pourrait être bien plus légitime. J'en parle d'ailleurs à propos du livre en disant, bah, tiens, si j'étais médecin psychiatre, thérapeute, psychologue clinicienne, je serais peut-être plus légitime à parler de certaines thérapies. Et en même temps, c'est intéressant d'interroger ses propres croyances, de se dire... je ne suis peut-être pas légitime sur un plan technique ou clinique, tout à fait. Donc ça, c'est bien de le dire et de pas faire croire aux gens qu'on est légitime alors qu'on l'est pas. En revanche, c'est important aussi de s'autoriser parfois à dire, bah tiens, j'ai une forme aussi de liberté que n'auraient peut-être pas d'autres personnes qui seraient enfermées finalement dans leur pratique ou dans leur clinique pour parler de certains sujets de manière plus transversale. Donc, pourquoi ce petit vélo dans la tête et ces croyances limitantes hein, qui font écho aussi à des formes de manque de confiance en soi, d'estime de soi, enfin, ça prend racine dans les histoires des uns et des autres très très loin. Donc, ça peut être intéressant de remonter et d'essayer de comprendre d'où ça vient. Moi, je pense que ça vient à nouveau de cette histoire de conception in utero, de dire, ben, il y a une sorte d'imposteur. D'ailleurs, on dit dans l'inconscient, on dit... Dans l'expression populaire, on dit « il y a un polichinelle dans le tiroir ». Et ce polichinelle dans le tiroir, en fait, c'est une sorte d'imposteur. C'est-à-dire qu'il est caché, il ne devrait pas être là alors qu'il l'est. Et donc, il y a tout ce travail intéressant qui peut être fait après de conscientisation de « tiens, d'où vient ce syndrome d'imposteur ?» Quand quelque chose est mis à nu au niveau thérapeutique, il est beaucoup plus facile ensuite d'aller le démasquer. Alors, c'est pas parce que on l'a verbalisé, qu'on en a pris conscience, que le phénomène cesse, que d'un seul coup, on n'a plus le syndrome d'imposteur, par exemple. Mais en revanche, c'est quand même la première étape. Une fois qu'on a compris, qu'on a démasqué ce syndrome, qu'on a pu le voir, le ressentir, l'accueillir, l'apprécier, déjà, il y a une intégration qui se fait, qui est beaucoup plus facile derrière.
Dans le passage « Oser vivre ses émotions », vous évoquez la méthode Tipeee qui peut agir notamment contre des troubles comme l'anxiété. Moi, j'y suis sujette, comme une infinité d'autres personnes. Quel est votre propre cheminement avec Tipeee ?
Alors, l'anxiété, c'est intéressant quand même de faire une petite parenthèse dessus parce que on sait aussi que la périménopause, alors je ne pense pas que ce soit votre cas, mais la préménopause, la périménopause, mais qui commence, on est en train de s'apercevoir peut-être maintenant de plus en plus tôt, chez les femmes. Donc certaines disent même que avant la quarantaine, elles peuvent commencer à avoir des symptômes, pourraient avoir aussi des répercussions sur l'anxiété. Donc c'est quand même intéressant de l'avoir en tête parce que parfois on peut se dire tiens, c'est curieux, j'étais pas spécialement quelqu'un de particulièrement anxieux. Et puis avec l'âge, l'anxiété arrive de plus en plus. Donc voilà, je le dis, ça peut être aussi quelque chose d'hormonal. Mais alors, pour revenir à votre question sur la méthode Tipeee, qui a été mise en place par Luc Nicon, qui est un thérapeute qui a observé que finalement, une émotion, quand on a une émotion, qu'elle soit n'importe quel type d'émotion. Des émotions, il y en a des dizaines et des dizaines, que ce soit de la joie ou de la colère, de la nostalgie, de la tristesse, etc. En fait, elle passe dans le corps, elle est physique. C'est-à-dire que l'émotion, elle nous traverse physiquement. Sauf que souvent, on ne sent pas forcément alors, où est-ce qu'elle est dans notre corps. C'est-à-dire qu'on est tellement sous le coup de l'émotion qu'on ne se pose pas la question, on ne s'arrête pas quand on est d'un seul coup pris d'une colère ou qu'on est très énervé ou qu'on est dans une grande joie. On n'est pas en train de se dire en mode réflexif, tiens, qu'est-ce que je suis en train d'expérimenter dans mon corps. Et pourtant, c'est là où ça peut être intéressant d'apprendre à mieux connaître ce que je ressens. Tiens, là je sens que j'ai une émotion qui arrive. Où se situe-t-elle dans mon corps ? Pour certains, ça va être extrêmement facile de le déterminer. Ça peut être de dire, tiens, elle est plutôt dans le dos, ou je sens que j'ai la gorge qui est nouée. Je commence à avoir du mal à déglutir, à parler. J'ai mal au ventre, je suis pliée en deux. Hein, on le sait, chez les enfants, par exemple, le stress d'un examen, ça peut voilà, donner des formes de somatisation physique comme ça dans le ventre. Donc, c'est déjà où se loge mon émotion. Et une fois qu'on a conscientisé où est-ce qu'elle était logée dans mon corps, c'est de pouvoir poser les mains à l'endroit de l'émotion. D'ailleurs, je suis en train de le faire en même temps que je vous parle. Est-ce qu'elle est plutôt... Donc là, on voit que mes mains, naturellement, moi, chez moi, elles se posent à l'endroit du plexus solaire, hein, au-dessus de la poitrine, à cet endroit-là. C'est là où c'est peut-être plus difficile pour moi. Les émotions, elles se mettent plutôt à ces endroits-là. D'autres personnes, ça pourra être des fourmillements dans les jambes, par exemple. Donc là, c'est bien, bah, vous touchez vos jambes. Et donc, dans la méthode Tipeee, c'est une méthode qui est très simple. Il y a aussi des livres pour pratiquer la méthode Tipeee avec les enfants, fait par Luc Nicon, avec des très jolis dessins. Mais évidemment, il a écrit des livres aussi pour les adultes. En quelques secondes, en quelques minutes, on peut prendre conscience de l'émotion qui me traverse, de mettre les mains. Et ça va être vraiment comme un courant électrique qui va passer dans un fil électrique, comme une charge qui va passer. Et si on la conscientise, si on la laisse circuler dans le corps, naturellement, elle va vers son œuvre, elle va traverser notre corps et puis elle va s'en aller. Alors que si on n'a pas cette conscience-là, alors je parle dans des émotions qui peuvent être un peu douloureuses, par exemple, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire ? On va bloquer l'émotion et elle va rester engrammée, enquistée dans notre corps. Et donc, à une autre occasion, quand on va revivre la scène, bah, comme elle n'a pas été évacuée, elle va à nouveau revenir et se bloquer au même endroit, etc. etc. Quand ça s'est répété des centaines ou des milliers de fois, à un moment donné, ça peut faire le lit de certaines maladies, ou voilà, parce que l'émotion, en fait, n'est pas entendue. Elle n'est pas entendue ni par le corps, ni par la psyché. À aucun moment, en fait, on lui laisse la place. Donc, la méthode Tipeee, elle va venir vraiment écouter l'émotion pour la laisser circuler. Donc, c'est très, très bon et très, très doux. Ensuite, il y a beaucoup de... On peut le faire avec un thérapeute, hein, on peut le faire avec un livre, mais si on doit revenir sur une émotion passée ou des blessures plus profondes, voire même des traumas, il faut vraiment être accompagné.
Je suis très sujette aussi aux douleurs neuroplastiques. Très important de rappeler le lien entre corps et psyché. Et je le fais aussi avec des pierres énergétiques. Alors, est-ce que... Il y a un véritable bienfait, mais je sais que ça m'a coupé certaines douleurs de le faire avec ces pierres.
Pourquoi pas ? Je ne connais pas du tout cette pratique, mais c'est vrai que parfois avoir un support, que ce soit un support agissant peut-être comme une pierre qui émet forcément une forme de vibration, ou voilà, un support qui nous est cher peut-être servir d'objet transactionnel et être aussi intéressant, mais ça, je ne connais pas cette pratique, par contre.
Dans la dernière partie, être en paix avec l'histoire de ses ancêtres, vous proposez des thérapies pour introduire un événement traumatique dans son histoire familiale en le guérissant. Parmi ces méthodes, les constellations familiales que j'ai évoquées dans plusieurs épisodes avec Anne Cazobon sur mon podcast, mais vous parlez également du rituel psychomagique de l'arbre. Est-ce qu'on peut en discuter ?
Alors, celui qui parle très très bien de psychomagie, que j'ai reçu aussi dans Métamorphose, c'est Alejandro Jodorowsky, qui est quand même le maître absolu de la psychogénéalogie, de la métagénéalogie, de la thérapie transgénérationnelle, etc. Et qui parle de l'acte psychomagique. Alors, un acte psychomagique, c'est un acte symbolique, à effet positif, je le précise, qui va, de par cet acte-là qu'on va faire, je vais prendre un exemple, avoir une portée réparatrice. Alors, c'est comme si dans notre arbre en transgénérationnel, donc si on prend nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ont vécu quelque chose qui inconsciemment, c'est ce qu'on appelle les fantômes en thérapie transgénérationnelle. Peut-être que vos auditrices et vos auditeurs connaissent bien ça si vous avez reçu Anne et puis d'autres personnes sur le sujet. C'est quelque chose qui est encore agissant et que vont porter les générations suivantes dans l'inconscient de notre arbre généalogique. Par exemple, il y avait des filles mères dans un arbre généalogique et donc elles ont engrammé que finalement les hommes n'étaient pas dignes d'intérêt, n'étaient pas des personnes solides, on ne pouvait pas se fier aux hommes et donc être fille mère, c'était apprendre à se débrouiller par soi-même. Et donc à chaque fois, inconsciemment, on va aller éjecter, on est en couple, on entend un enfant et on va aller éjecter le père, l'homme ou le conjoint en tout cas, la personne pour être inconsciemment, on va aller répéter le traumatisme, une forme de traumatisme de l'arbre. Donc l'acte psychomagique est un acte qui va être parfois difficile à mettre en place, qui va venir, mais à effet positif, qui va venir, l'idée c'est pas d'engendrer une douleur supplémentaire, qui va venir réparer en fait cet acte conscient. Donc ça pourrait être de faire un rituel, de ritualiser, je dis n'importe quoi, moi je ne donne pas d'acte psychomagique, mais si je donne un exemple comme ça, ça pourrait être de dire, tiens, je vais inviter par exemple 10 amis ou 5 amis hommes autour de moi, pour me dire qu'ils m'apportent, par exemple, mon soutien et qui vont apporter la preuve qu'un homme peut soutenir une femme. Voilà, par exemple, hein, je dis n'importe quoi. Et donc, on va convoquer 5 très bons amis du masculin autour de soi qui vont apporter, par exemple, un objet symbolique qui va dire que la femme est digne d'être soutenue, peut être soutenue par un homme, que la présence d'un homme n'est pas forcément dangereuse, qu'il ne, etc., etc. Donc, on va essayer de ritualiser. Alors, dans le dernier livre de Alejandro Jodorowsky, il donne des tas d'exemples de gens qui ont témoigné de comment un acte psychomagique a pu, en fait, réparer quelque chose. Un exemple, c'était une fille, ses parents voulaient un garçon. Je reprends votre exemple. Avec ce yang. Eh ben, comme un acte psychomagique, elle a dû aller chez ses parents habillée en garçon, avec tous les apparats du garçon, alors si tant est qu'il y en ait, mais elle s'était mise en costume, elle avait mis les cheveux très courts et je crois les avait lissés, et puis à la fin de la journée passée avec ses parents comme un garçon, qui n'ont pratiquement d'ailleurs rien remarqué, c'était très curieux, elle trouvait ça très curieux, elle est allée enterrer symboliquement et brûler tous ses costumes d'hommes pour dire « je ne suis pas un homme en fait, et je ne veux pas porter ce costume-là ». Voilà. Donc c'est vrai que ces actes psychomagiques de l'arbre, j'en parle dans mon livre parce que je trouve ça toujours très intéressant. Là, je me réfère vraiment à Jodorowsky qui a donné des centaines d'actes psychomagiques. Donc on peut aussi retrouver dans ses ouvrages des exemples pour voir ce qui pourrait convenir pour soi-même sans jamais aller faire des choses qui soient, encore une fois, blessantes, soit pour les autres, soit pour soi-même. L'idée, c'est de faire un acte qui soit réparateur, même s'il peut être difficile à faire.
Une fois ce travail fait, nous sommes capables de déployer nos ailes et de nous laisser bercer par l'émerveillement et l'amour. Quel est votre rapport, Anne, à ces deux notions ?
L'amour. Alors, l'amour, comment est-ce qu'on définit l'amour ? Ça, c'est quand même une grande question qui est quand même une source qui est à portée de main et qui est disponible à tout moment. Et puis, qui nous permet, quand on a, je crois, c'est un double mouvement, c'est-à-dire que je crois que se laisser emporter et s'émerveiller devant le vivant et devant la création qui nous sommes en tant qu'être vivant incarné est un émerveillement permanent, quelles que soient finalement nos situations de vie. Alors il y a des situations de vie qui sont évidemment plus extrêmes que d'autres et donc on voit aussi dans la pyramide des besoins de Maslow que quand on n'a pas nos besoins primaires, je le disais tout à l'heure, il est peut-être beaucoup plus difficile de s'émerveiller, même si on voit des exemples de très très grands résilients, mais qui, comme dirait Christophe André, qui sont certainement des champions de la résilience, qui au cœur même de l'horreur, je pense à Etil et Soum, ce parcours de cette femme à travers son livre, là, Une vie bouleversée, qui au cœur même de l'horreur et de la Shoah, avait une forme d'exaltation et d'émerveillement. Bon, donc sans aller jusqu'à ces exemples paroxystiques qu'arrivent à vivre peut-être certaines personnes, c'est vrai que je crois que être émerveillé conduit à l'amour et à l'inverse, l'amour aussi conduit à l'émerveillement. Donc finalement, est-ce que ce ne sont pas des synonymes qui nous permettent de nous mettre dans un état, parce que je crois qu'il s'agit vraiment d'un état intérieur, d'une posture, d'un retournement en fait sur soi, de se dire, moi il y a cette phrase qui me guide beaucoup, je l'ai déjà partagée dans une autre émission, mais quand je suis bloquée dans une situation où je ne sais pas quoi faire, je me pose cette question, que ferait l'amour s'il était à ma place ? C'est vrai que cette phrase me guide beaucoup parce que parfois en fait on n'a pas la réponse. On ne sait pas, on cherche désespérément dans notre tête, avec notre mental, avec tout ce qu'on a appris, de manière rationnelle, une réponse. Et finalement, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, je ne peux pas décider. Et là, donc, il y a quelque chose en moi qui dit, lâche ta volonté propre et remets-toi en fait à plus grand que toi. Et ce plus grand que moi, c'est cette source d'amour, quel que soit le nom qu'on lui donne, et qui finalement sait ce qui est bon, ce qui est juste pour moi, et quand c'est juste pour moi, c'est juste aussi pour l'autre. Je ne peux pas faire d'erreur en réalité à ce moment-là. Mais ça procède d'un grand abandon à l'intérieur.
Et si on parle d'amour de ce que l'on fait, vous dites, pour nous éclairer sur nos dons, nous pouvons regarder la corrélation entre nos talents et nos états de flow, c'est-à-dire ce qui nous absorbe totalement. Et là, vous parlez du Witao, oui, Tao, j'espère que je prononce bien, qui éveille l'âme du corps. Pouvez-vous m'expliquer ?
Le Wutao, c'est un art que j'ai rencontré, donc W-U-T-A-O, comme vous disiez, qui veut dire la voie de l'éveil, et qui est un art corporel que j'ai découvert, qui existe depuis plus d'une vingtaine d'années, qui a été fondé par Paul Charroy et Imanou Rislar, par deux êtres... Qui ont métissé leurs arts corporels. Lui était un ancien champion du monde de kung-fu, elle était danseuse et prof de yoga. Et donc, à travers leurs arts respectifs, ils ont inventé, imaginé, créé un art contemporain pour nous, les gens d'aujourd'hui, qui prend racine dans des arts ancestraux, hein, comme c'est pas un art martial, mais qui est inspiré en fait des arts martiaux. Et d'autres arts comme le Qigong, le Tai Chi, mais qui n'est pas tout ça, et qui est un art en fait fait pour nous aujourd'hui, qui est une pratique où on va alchimiser le souffle, on va aller pratiquer, il y a 12 mouvements de base en Wutao, qui sont des mouvements corporels qu'on peut pratiquer assis, debout ou même allongé au sol. Donc, ce qui est assez pratique, c'est qu'on peut le faire, on peut pratiquer le Wutao, que ce soit en extérieur, dans la nature, en altitude, par exemple aux Arcs, ils organisent des stages tous les ans l'été aux Arcs, ou dans une salle avec un sol comme un plancher, par exemple, où on va aller calligraphier des mouvements avec une pratique de souffle autour. Et ça va permettre de libérer vraiment des espaces. Et justement, je parlais de l'état et de s'abandonner à la source d'amour, on va tomber dans une forme de grâce, je ne sais pas comment je pourrais le formuler, mais en tout cas, on va tomber dans une forme d'état où on va non pas du tout lâcher prise avec le réel, parce que c'est pas le Wutao n'est pas du tout un art du lâcher, de la transe et du n'importe quoi, où on part dans des espaces où on déconnecte de soi. Non, non, au contraire, on va être bien présent à soi, avec le souffle, à travers le mouvement, dans une forme de lâcher prise conscient. Et c'est ça qui est extrêmement beau dans cet art corporel. C'est qu'il y a un abandon qui est là, à l'état, à cet état de grâce, et en même temps, on est extrêmement présent à soi. Comme dans une grammaire, c'est-à-dire que dans une forme d'écriture, on va écrire, mais on a les codes. C'est-à-dire que si on n'avait pas appris les lettres, la calligraphie, on ne saurait pas écrire, on ne saurait pas faire ce mouvement. Et bien là, c'est pareil, on va apprendre cette grammaire de ces mouvements, et dans cette grammaire, on va pouvoir aller faire des chevauchées de souffle et aller calligraphier ces mouvements qui sont très très beaux à voir.
Enfin, pour devenir acteur de sa vie, vous évoquez le pouvoir de la contemplation pour se relier au divin. Quel est son bénéfice et comment l'intégrer dans notre vie quotidienne ?
C'est vrai qu'on est plus ou moins des êtres contemplatifs en fonction de qui nous sommes. Je crois que c'est important, tout comme l'émerveillement, de pouvoir adulte, comme les enfants. On le voit, les tout petits enfants, vous disiez tout à l'heure des petits enfants. On le voit en cette capacité quand ils n'ont pas été évidemment traumatisés, hein, je mets ce cas à part, de s'émerveiller à rien les émerveille. Je me souviens encore du regard de ma fille petite qui observait des petites fleurs au printemps. Et ben, ce regard contemplatif, ce regard de bonté en fait sur le vivant, comment est-ce qu'on peut le cultiver toute notre vie pour rester comme ça dans cet émerveillement permanent. Et que ce soit des choses très, très simples. Parfois, on se dit, oui, mais peut-être vous vivez en Suisse, vous avez de merveilleux paysages, mais quand je vivais en ville ou étudiante, dans des endroits qui n'étaient pas toujours top, on a la capacité à s'émerveiller devant des petits riens. Ça peut être un chat qui passe, ça peut être un rayon de soleil, ça paraît un peu bisounours ou stupide de dire ça, mais en même temps, c'est ce qu'il y a là, c'est ce qu'il y a là, à ce moment-là, qui provoque cette capacité à s'émerveiller. Au moment où je vous parle, je vois à côté de moi, il y a ce livre, il y a une bibliothèque, et par hasard, mon regard tombe sur ce livre de George Sand, La petite fadette, qui m'a beaucoup peu impactée quand j'étais enfant. Et ben, moi, ça m'émerveille quand mon regard se pose sur ce livre et que il pop-up comme ça et ce souvenir revient à moi, c'est une forme d'émerveillement, c'est une manière en fait poétique d'être au monde, d'habiter le monde, d'être contemplatif, je trouve. En tout cas, peut-être de se remémorer que c'est aussi notre essence profonde qui était notre état naturel quand nous étions petits.
Avant de passer aux questions de fin que je pose toujours dans tous mes podcasts, est-ce que, Anne, vous avez une leçon à nous transmettre de tous vos apprentissages ?
Il y a cette idée que d'être vraiment soi-même, les autres sont déjà pris. Donc, c'est important de se dire qu'est-ce que moi ? Qui suis-je ? Qui parle à l'intérieur ? Comment je peux libérer mes espaces créatifs ? Pour aller vraiment à la rencontre de qui je suis, sachant que on n'aura jamais la réponse de savoir qui nous sommes véritablement. Nous restons un mystère pour nous-mêmes, comme les autres restent un mystère pour nous. Nous restons un mystère, je pense, toute notre vie pour nous-mêmes. Mais malgré tout, on peut danser un peu plus avec nous-mêmes. J'aime beaucoup cette phrase de Nietzsche qui dit « Il faut porter du chaos en soi pour accoucher d'une étoile qui danse ». Donc comment un peu mieux danser avec ce chaos intérieur pour apprivoiser finalement qui nous sommes. C'est cette leçon, je crois en tout cas, que j'ai apprise pour moi-même et que je peux tout simplement transmettre.
Très joli. Alors on va finir par des petites questions. L'idée c'est d'y répondre avec des réponses courtes. Vos routines pour rester bien physiquement et mentalement ?
Faire du vélo, aller courir, aller nager, pratiquer du bout à haut et aussi du yoga, voilà. Et tourner avec toutes ces pratiques. Aller dans la nature surtout, beaucoup, beaucoup.
Est-ce que vous pouvez me citer une ressource qui vous inspire ? Ça peut être un livre, un film, un podcast.
Puisqu'on parlait d'amour, il y a un livre qui m'a beaucoup marqué quand j'étais plus jeune, aux alentours de la vingtaine, qui était celui de Marianne Williamson, qui a été best-seller du New York Times aux États-Unis à cette époque, et qui s'appelle en anglais « A Return to Love », un retour à l'amour.
Vos citations préférées ?
Je viens d'en dire une, effectivement, de Nietzsche. Il y a aussi celle de Mark Twain qui était « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Important, je crois aussi, de se dire que finalement, qu'est-ce qui est impossible ? C'est une question.
Le conseil que l'on vous a donné et que vous auriez aimé connaître avant de vous lancer dans tous vos projets ?
C'est un conseil qu'on m'a donné quand j'étais jeune et j'en ai un petit peu parlé. C'était « Enlève ta volonté propre ». Et je crois que c'est important puisque ça rejoint cette idée aussi parfois de s'abandonner au flot du vivant, de ne pas vouloir toujours avec une volonté de « je vais faire des plans de coaching, etc. » Simplement, parfois, la vie sait pour nous comment est-ce qu'on s'abandonne à ce flot et bon.
Faire confiance, finalement, en ce qui se met sur nos chemins. Un échec que vous auriez vécu et une leçon tirée.
Quand on a cherché à partir vivre aux États-Unis, on a déposé beaucoup de visas et puis on s'est vu refuser. On a vécu là-bas un an, puis après on n'a pas réussi à avoir de renouvellement de visa. Et on a tenté 7 fois de redéposer des visas, on a eu 7 noms. Et c'est parfois de ne pas s'entêter encore une fois parce que la vie sait intuitivement où parfois il est bon d'aller ou ne pas aller. Et j'ai retenu que pas trop forcer les choses, encore une fois, c'est bien.
Est-ce que vous croyez à la chance ?
Je crois aux bonnes étoiles qui veillent sur nous, que ce soit à travers une croyance dans une source d'amour plus grande que nous. Moi, je crois à la transcendance, je crois en Dieu. Donc forcément, je crois à cette étoile, oui, du divin qui me guide en ce qui me concerne.
Et ma dernière question, c'est quoi pour vous devenir acteur de sa vie ?
Je ne sais pas. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que c'est qu'être acteur de sa vie. Je sais que ce que c'est de vivre ma vie, mais être acteur de sa vie, Ça renvoie à une espèce de comédie humaine aussi, d'être acteur de sa vie et de vouloir absolument posséder sa vie, coûte que coûte. Et comme je parle de lâcher sa volonté propre, je vais paraphraser Franck Lobvet qui dit « Je crois qu'on ne peut ni échouer, on ne peut pas échouer sa vie, on ne peut que la vivre en réalité. » Donc c'est ça, être acteur de sa vie, certainement.
Merci beaucoup, Anne.
Merci beaucoup, Laura.
Cet épisode est maintenant terminé. En espérant qu'il vous ait plu, je vous donne rendez-vous maintenant sur le compte Instagram lalea.podcast pour découvrir les coulisses de l'interview.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.